L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place.
Tous les jours sur Europe 1.
I, Charles, will secure the Protestant succession to the throne.
Historiquement vôtre.
Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire.
Une tour entièrement en métal. Mais vous êtes qui? Gustave Eiffel.
God save the king.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc David.
Bonjour.
Bonjour. Et bonjour à celle qui est avec nous aujourd'hui, notre journaliste à la mode, Yvonne Jacob.
Bonjour Stéphane.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire, sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, comme le docteur Frankenstein, vite dépassé par sa créature, eux aussi, ils ont été dépassés par leur invention. C'est le thème historiquement vôtre cet après-midi, à commencer par un médecin et homme politique de la Révolution qui a prôné une solution pour adoucir la sentence des condamnés à mort. Son nom, Joseph Ignace Guillotin. Un nom qu'il a, sans le vouloir, laissé à une machine, la guillotine. Un hommage dont il se serait bien passé, vous verrez. Puis lui, en revanche, reste considéré comme le père de la bombe atomique. Robert Oppenheimer et son invention qui a provoqué des centaines de milliers de morts à Hiroshima et Nagasaki. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un inventeur du net, une légende d'internet même, qui regrette son invention.
Son nom commence par Zuckerberg. Perdu.
Ah non.
Zuckerman. Evan Zuckerman, moins connu que le boss de Facebook, Mark Zuckerberg, mais on lui doit pourtant une invention qu'on a chaque jour sur nos écrans d'ordinateur, le pop-up. Cette petite fenêtre de publicité qui s'ouvre sans qu'on ait rien demandé.
Ah, c'est insupportable, oui.
On est complètement d'accord avec ça. Et bien, Evan Zuckerman, il le regrette aussi. Vous verrez, je vous raconte tout ça tout à l'heure.
Eux, ils l'ouvrent uniquement quand on leur le demande. Bon, sauf peut-être la première. Celle qui nous entraîne dans l'intimité.
Je me sens pas du tout visée.
Des grandes semaines, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, Clémentine, de qui nous parlez-vous aujourd'hui?
Vous auriez l'air malin si je clouais le bec, là. Hein. Je vais vous parler d'un homme qui a été dépassé, non pas par son invention, mais par son instructeur. C'est Louis XVI. Vous savez tout ce qu'il adorait. Il la adorait serrurerie. La serrurerie. Et il s'était adjoint dans cet art les services d'un serrurier très habile qui s'appelait François Gamin. Mais François Gamin, après avoir instruit Louis XVI, a fini par le trahir. C'est une triste histoire, méconnue.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castillo-Lopez. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, très simple, le flipper.
Ah oui,
on joue dans les cafés.
Hein.
Le flipper qui désigne d'ailleurs les petites spatules en triangle qu'on actionne pour faire remonter la balle.
Du coup, ça a un lien avec le dauphin? C'est pour ça que ça...
Non.
Okay.
Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïeux, quelle époque.
Et ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte en 1966. On parle mode avec vous, Yvonne Jacob. Et même mode au cinéma avec un film qui ne l'a pas épargné, non?
Oui, c'est un film qui s'appelle Qui êtes-vous, Polymagou? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un de mes films préférés.
Je crois que je ne l'ai jamais vu.
Et il est très très bien habillé, ce film.
Habillé pour l'hiver et pour plusieurs saisons.
Exactement, et puis c'est une satire de la mode et c'est très drôle. Je vais vous raconter tout ça.
Mes aïeux, quelle époque? Ce sera tout à l'heure vers 17h40. Mais avant cela, il y aura un moment phare dans l'émission, le quiz.
Oui, enfin, normalement, un phare, ça sert à éviter le naufrage. Hein. Là, nous allons gaiement nous échouer sur les rochers du savoir historique. Je prépare quelques bouées de sauvetage au cas où.
Je veux bien une bouée, alors on ne sait jamais pour m'en sortir. J'ai l'impression d'ailleurs, Jean-Luc, que la vôtre ne vous quitte jamais vraiment. Hein.
Non, je suis toujours bien équipé, merci.
Oui, voilà.
En tout cas, vous êtes très agréable.
Non, je parlais des fiches, évidemment.
Non. Je suis désolé. À partir d'un certain âge, on est tous soumis à cette petite bouée qui s'invite.
Oui, mais c'est pas grave. Celle-là, elle est plutôt sympathique. Bref, quoi qu'il en soit, restez bien avec nous sur Europe 1. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Son nom ne lui appartient presque plus, tant il reste accolé à une macabre invention. Pourtant, il était médecin et a passé son existence à soigner et protéger la vie, mais aussi un homme politique qui voulait des châtiments moins cruels et plus humains, sans se douter qu'il plaidait alors pour un mécanisme qui allait faire couler autant de sang. Je vous raconte maintenant celui qui a été dépassé par son invention et l'a âprement regretté, Joseph Ignace Guillotin. Nous sommes le 25 avril 1792 sur la place de Grève, au pied de l'hôtel de ville de Paris. Un homme, encadré par des gardes, arrive au palais de justice tout proche où les juges viennent de confirmer sa sentence pour avoir dérobé avec violence une forte somme à un bourgeois. Cet homme se nomme Nicolas-Jacques Pelletier. Auprès de justice, criminel récidiviste, il est condamné à la plus lourde des peines, la mort. Si la foule est particulièrement nombreuse en cet après-midi printanière, ce n'est pas tant pour se réjouir de la mort qui s'annonce que pour satisfaire une curiosité attisée depuis des jours par les gazettes. Tout le monde trépigne en effet de voir de ses propres yeux à quoi ressemble la toute nouvelle machine choisie il y a peu pour se substituer à la corde ou à la hache du bourreau. Nous sommes en pleine Révolution française et les cruautés et injustices de l'Ancien Régime s'effacent les unes après les autres devant les lumières de la souveraineté populaire et le triomphe de la raison. La dite machine consiste en deux grands axes verticaux accueillant en leur sommet une lame affûtée qui, une fois lâchée, glisse entre des rainures pour venir sectionner le cou du condamné allongé sur le ventre, la tête prise dans un carcan de bois. Nicolas Pelletier est mené sur l'échafaud. Pendant qu'on lui retrousse les cheveux et qu'on l'attache à la planche de bois, le public joue des coudes et se dresse sur la pointe des pieds pour ne rien manquer du spectacle. Mais on a tout juste le temps d'apercevoir l'engin, que le couperet s'abat et que la tête tombe dans le panier d'osier tapissé de cuir prévu à cet effet. D'agonie, il n'y a pas eu. Et c'était bien le but. Ce fut si court que certains badauds repartent déçus en regrettant déjà la bonne vieille pendaison et peste contre l'instantanéité de cette machine. Une machine qui n'a d'ailleurs pas de nom officiel. Le sobre mot de tranche-tête fait pour certains l'affaire quand d'autres parlent plus pompeusement de hache de la loi, alors que des surnoms commencent à fleurir dans la presse, notamment celui par lequel la coupeuse de tête entrera vite dans l'histoire, la guillotine. Et s'il en est un à qui ce nom ne plaît pas, c'est bien Joseph Ignace Guillotin, médecin de son état, qui, en pensant faire preuve de clémence et d'humanisme, a malheureusement lié pour toujours son nom à ce patibulaire instrument de mort. Joseph Ignace Guillotin est né en Saintonge en 1738. Il a bien failli devenir ecclésiastique après le collège chez les jésuites bordelais, mais opte finalement pour la médecine qu'il étudie à Reims, puis à Paris, où il s'installe et voit à partir des années 1780 défiler toute la bonne société dans son cabinet. Guillotin est un brillant homme de son temps, pétri des idées des Lumières, humaniste, franc-maçon aussi, chantre d'un certain libéralisme moral et politique. C'est pour ces raisons qu'en 1788, au moment où la France voit frémir les prémices de la Révolution et que le roi convoque l'Assemblée des États généraux, que Guillotin prend la plume. Il lance une pétition qui réclame le vote par tête et non par ordre, afin que le tiers-État, censé représenter le peuple, et son mot à dire pour sa destinée sans être étouffé par la noblesse et le clergé, les deux autres états. La pétition agace les autorités mais ravit le peuple. Joseph Ignace Guillotin se retrouve élu député du tiers quand les états généraux s'ouvrent à Versailles en 1789 et les choses s'accélèrent. L'Assemblée se décrète nationale, le peuple prend la Bastille, les privilèges sont abolis pendant que le roi est prié de s'installer à Paris, tout comme l'Assemblée désormais constituante qui s'attelle à donner au pays de nouvelles lois et institutions. Dans le bouillonnement de réformes, les députés réfléchissent notamment à un code pénal pour établir clairement les crimes et les peines encourues afin de remplacer le relatif arbitraire judiciaire qui régnait jusqu'alors. Dans ce contexte, Guillotin, réputé sérieux et travailleur, mais pas spécialement bon orateur, prend la parole avec brio le 1er décembre 1789 devant ses collègues pour proposer des articles à ses yeux essentiels. D'abord qu'un crime donné soit toujours sanctionné par la même peine, qu'importe le rang ou la condition du condamné. Et surtout, que si peine de mort il y a, elle s'abatte de la même façon sur tout le monde en se contentant d'ôter la vie sans souffrance inutile. Fini les supplices, fini les exécutions à l'épée réservées à la noblesse quand les roturiers étaient pendus ou roués pendant des heures avant de succomber. Au cours des débats, Guillotin vante à ses collègues les mérites de la décapitation. Elle est rapide et sans douleur, d'autant plus si l'on songe à la mécaniser. Un bourreau, tout expérimenté qu'il soit, peut encore rater son coup ou flancher lorsqu'une machine ne tremblera pas. C'est au cours des séances qui s'étalent sur plusieurs mois que Joseph Ignace Guillotin lance un jour à l'Assemblée.
« Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez pas. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus.
Ma machine. Que n'a-t-il pas dit, là ? La presse s'en fait l'écho et lorsque l'Assemblée fixe, finalement, en juin 1791, l'article 3 du Code pénal, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Les députés pensent tous à la machine de guillotin. Son nom est désormais lié à un instrument qu'il n'a pourtant pas inventé et qui d'ailleurs n'existe toujours pas. Tout condamné à mort aura la tête tranchée, soit. Mais le texte ne dit rien de plus. Et quand une nouvelle assemblée désormais législative doit statuer sur le modus operandi, guillotin n'est plus député. On missionne le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, M. Antoine Louis, pour déterminer quelle serait la meilleure machine. Le rapport est clair. Il faut s'inspirer de systèmes qu'on utilise déjà en Angleterre ou en Irlande. Une lame est filée dans une robuste structure de bois. On consulte, bien entendu, Charles-Henri Sanson, bourreau officiel de la ville, qui atteste en effet qu'une machine serait bien utile. C'est entendu. Les choses traînent un peu, mais un artisan est finalement sélectionné. Au mois d'avril 1792, l'engin est enfin prêt. La lame, au début plutôt en forme de hache, est rendue nette et oblique après qu'on a réalisé quelques essais sur des moutons vivants et des humains morts. Le 25 avril, Nicolas Pelletier inaugure donc la machine. Les premières condamnations politiques tombent au mois d'août après l'abolition de la monarchie, avant que la guillotine devienne l'emblème de la répression puis de la terreur qui s'abat sur la France. Et pendant que le sang recouvre les pavés de Paris et d'ailleurs, une véritable controverse médicale éclate. Certains affirment que la tête même coupée est toujours sensible. Voilà qui est donc bien cruel. Et qu'en dit guillotin ? Ben rien. Il préférait ne plus entendre parler de cet engin de mort qui porte désormais son nom. Car si la machine fut aussi appelée Louisette, rapport au chirurgien Antoine Louis, puis affublée d'autres sobriquets tels que le glaive patriotique, c'est bien le nom de guillotine qui s'est généralisé. Le pauvre guillotin dépité préfère travailler à l'organisation du système de santé et des études de médecine plutôt que de se quereller sur les effets de cette homonyme machine qui tranche même la tête de certains de ses collègues et amis. La terreur passe, les régimes aussi, la guillotine reste et continue sa besogne sous le consulat puis l'empire, alors que guillotin s'échine à développer avec un certain succès la vaccination contre la variole et à mettre sur pied une académie française de médecine. Une légende a voulu qu'il périsse lui-même sous le couperet, ce qui est faux. Il fut en effet brièvement emprisonné en 1795, manifestement pour des écrits contestataires, mais rapidement libéré sans crainte pour sa tête. Non, c'est dans son lit qu'il meurt en 1814. La triste invention qui porte son nom, elle, lui survivra longtemps. 185 ans à couper des gens en deux. Heureusement qu'il n'était plus là pour le voir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Joseph Ignace Guillotin avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien spécialiste de la Révolution française. Bonjour Antoine Boulan.
Bonjour.
Antoine Boulan, comment les condamnés étaient-ils suppliciés avant que la mort par décapitation ne soit généralisée en France sous l'impulsion du député Joseph Ignace Guillotin ?
Il est vrai que les supplices de l'Ancien Régime étaient particulièrement atroces, puisqu'on a le souvenir d'abord de la pendaison, qui était très pratiquée à l'époque, place de Grève en particulier, qui était une pendaison par étranglement et non pas par rupture des vertèbres cervicales, comme ça a été le cas ensuite. On pense au bûcher, on pense à l'écartèlement, on pense à la roue, qui consistait en effet à briser les membres du condamné avec une barre en fer jusqu'à ce que la mort s'en suive, après qu'il ait été attaché sur une roue pivotante. Donc des supplices particulièrement cruel et également des supplices, vous l'avez dit, totalement inégalitaires, puisqu'en fonction de ce qu'on appellerait aujourd'hui le statut social de la personne et du crime qu'elle avait commis, le supplice était différent, les nobles étant effectivement décapités, les voleurs étant pendus ou les brigands étant roués.
Clémentine.
Il y avait quand même une sorte de proportion dans la peine, mais de toute façon, tout ça, c'était très très violent. Alors la mort par décapitation, Stéphane vient de nous le raconter, était censée être une mesure humaniste. Qu'avait en tête Guillotin ? Quelles étaient ses valeurs, ses idéaux ? Qui étaient-ils ?
La première motivation de ce médecin est évidemment de faire adopter un supplice le plus indolore possible, en supposant que la guillotine le soit, de manière à ce que les souffrances qui avaient été infligées par l'Ancien Régime cessent. et d'autre part une peine égalitaire entre absolument tous les condamnés, c'est-à-dire que quel que soit son rang social et le crime commis, l'exécution soit la même pour tous. C'est ça qui a essentiellement motivé Guillotin dans le contexte nouveau qui était celui des Lumières et de 1789.
Guillotin voulait que la mort soit donnée sans souffrance et c'est sur la base de cette proposition que la guillotine a été consumée. Avait-on déjà vu pareille machine ailleurs en Europe ?
On a beaucoup de gravures anciennes qui datent du XVIe, du XVIIe siècle et qui nous montrent qu'en effet une machine très similaire était en usage en Écosse, en Irlande, en Italie. En Écosse, on l'appelait la Maiden. Alors c'était évidemment un instrument infiniment plus sommaire que celui que la France a utilisé jusqu'en 1981. Donc on a raison de répéter que Guillotin n'a pas inventé cette machine. C'est effectivement le chirurgien Antoine Louis qui l'a conçue à partir de dessins plus ancien, et c'est un facteur de piano qui s'appelait Thomas Schmidt qui l'a fabriqué, qui a fabriqué le premier modèle de guillotine qui a été utilisé dans la cour du commerce Saint-André dans le 6e arrondissement de Paris.
Antoine Boulan, en France, la peine de mort a été abolie, on l'a rappelé, en 1981, près de deux siècles après que la guillotine commence son travail sanglant. Pendant la Révolution, est-ce qu'il y avait quand même des voix qui s'élevaient contre la peine capitale ?
Très peu. Toute l'Europe employait la peine de mort, c'était dans la culture du temps. Et si je vous cite le nom de celui qui s'est rendu relativement célèbre pour combattre la peine de mort en France à l'époque, ça va vraisemblablement étonner une partie de nos auditeurs, puisque c'est Robespierre lui-même qui s'est prononcé à plusieurs reprises contre la peine de mort, mais contre la peine de mort en matière judiciaire et non pas en matière politique, et contre la peine de mort dans un État, je dirais, constitutionnel et stabilisé, et non pas dans le cadre d'un État révolutionnaire en construction qui était celui de la France de 1793-94, où là, évidemment, on le sait, il a, non pas plaidé pour la peine de mort en tant que telle, mais initié cette politique de la terreur qui a généré, comme on le sait, des milliers d'exécutions en France.
Oui, alors effectivement, surtout pendant la terreur, mais est-ce qu'on a, on a des données chiffrées sur ces exécutions par la guillotine ?
Alors, ces données chiffrées existent depuis les années à peu près 50. Un historien américain qui s'appelait Donald Greer a chiffré les victimes de la terreur. Il y a eu environ 17 000 personnes qui ont été exécutées suite à un jugement légal qui a donc entraîné une exécution par la guillotine, puisque c'était le supplice officiel depuis la loi de 1791 et le code pénal. Donc on peut estimer à environ 17 000 personnes le nombre de gens qui ont été guillotinés, vraisemblablement encore plus hors jugement, mais c'est vrai que lorsqu'on avait à exécuter, ce qui était le cas à Paris sous la terreur en 1794, 10, 20, 30, 40, parfois 50 personnes dans la même journée, ça prenait 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'était très long, ce qui fait que dans des villes insurgées comme Lyon, Toulon, Marseille ou d'autres, ou Nantes, on a utilisé des méthodes infiniment plus expéditives, si j'ose dire, et on sait que, par exemple, plus de 5 ou 6 000 personnes ont péri par la noyade à Nantes, sous l'autorité de Jean-Baptiste Carrier au moment des guerres de Vendée.
Elle était installée place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde à Paris, mais la guillotine a plusieurs fois été changée de place. Pour quelle raison ?
Ce qui s'est passé, c'est que la guillotine est arrivée place de la Concorde actuelle en mai 1793. Elle y est restée jusqu'au mois de juin 1794 et il y a eu des plaintes des habitants et des commerçants, parce qu'on ne doit pas oublier que les condamnés à mort étaient emmenés à l'échafaud depuis la conciergerie dans des charrettes en bois tirées par des chevaux, qui étaient donc obligés de traverser des rues, et notamment des rues passantes et des rues commerçantes, ce qui troublait beaucoup le voisinage de la rue Saint-Honoré, puisque c'était le trajet qui avait été choisi pour emmener les condamnés à l'échafaud. Et il y avait un second problème encore plus morbide, c'est qu'il fallait ensuite évidemment traîner les corps décapités jusqu'au cimetière de la Madeleine, et les traînées de sang faisaient que dans les rues que les charrettes étaient obligées de traverser, il y avait là aussi des plaintes des habitants qui ne supportaient plus la coexistence de ces charrettes, ce qui a fait que la guillotine a été repoussée vers l'actuelle place de la Nation, qui était à l'époque une grande place à la campagne, quasiment, qu'on appelait la place du trône renversé, qui a amené ensuite les autorités à inhumer les personnes exécutées dans le cimetière de Picpus.
Mais ces exécutions publiques, aujourd'hui, ça nous fait absolument froid dans le dos. Il y en a eu jusqu'en 1939. Dans un premier temps, on a l'impression que les gens se précipitent. Il y a une espèce de... On veut vraiment châtier ceux qu'on juge coupables. Et puis, il faut les châtier aussi pour que l'ordre nouveau puisse passer. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où ces exécutions à tire-larigot, ça écœurait les populations ? Est-ce que les gens s'y sont rendus comme ça tout au long de la Révolution et de la Terreur ?
C'est vrai qu'il y a une culture du spectacle de l'exécution qui est très commune à la France et au Paris du XVIIIe siècle et même avant. C'était quelque chose de tout à fait courant. Le rapport à la mort, on le sait, était très différent à l'époque par rapport à aujourd'hui. Et effectivement, ces exécutions étaient de véritables spectacles. Il y a toujours eu une foule plus ou moins importante de gens qui assistaient à ça, d'autant que les exécutions avaient lieu souvent en plein après-midi ou en fin d'après-midi. Donc c'était au moment où les gens passaient le plus sur la voie publique. Et vous avez raison de rappeler que jusqu'en 1939, ces exécutions publiques ont eu lieu, puisque au moment de l'exécution d'Eugène Weidmann, dernière exécution publique à Versailles, on a encore des gens qui, à 6h du matin, sont venus assister à l'exécution et ont même trempé leur mouchoir dans le sang, comme ça se faisait à l'époque de la Révolution française. Donc c'est vrai qu'il y a dans cet imaginaire collectif de l'exécution publique quelque chose de tout à fait troublant et qui est encore quelque chose d'assez récent dans notre histoire.
Après la mise à mort sous le couperet de la guillotine, la machine remplace l'homme. Alors, que devient notre bourreau, le fameux Samson ?
Oui, on peut se poser la question. C'est vrai qu'à partir du moment où la lame tranche à la place de l'homme, que fait le bourreau ? Il y a d'abord toute une question d'entretien de la machine, parce que mine de rien, une machine qui sert à décapiter, ça s'entretient, ça se stabilise. Il faut que la lame tombe droit, tout ça s'entretient. La machine doit être rangée dans un hangar, et puis il y a, sans rentrer dans les détails, une certaine technicité pour arriver à exécuter un condamné dans de bonnes conditions et dans un délai relativement court. Il faut l'attacher convenablement, il faut que sa tête soit enserrée dans ce que vous appelez le carcan, de la lunette de la guillotine. Donc tout ça nécessite des gestes très techniques, très précis et très répétitifs, surtout évidemment quand il s'agit d'exécuter plusieurs dizaines de personnes en quelques heures.
Un dernier mot, Antoine Boulan, pour finir sur Guillotin, à qui l'on prête à tort donc l'invention de la guillotine. Dispose-t-on de documents qui témoignent de son regret de voir son nom associé à cette machine mortifère?
Non, pas exactement. On a des témoignages, on a des mémorialistes qui racontent qu'effectivement, Guillotin regrettait beaucoup ça. On a quelques fragments de correspondance de sa part, mais pas de discours ou pas de choses très officielles qui témoigneraient de son regret, qui est réel. Effectivement, il a toujours regretté que son nom soit associé à cette machine qu'on avait aussi appelée la Louison, la Louisette, comme vous l'avez dit. Et c'est malheureusement pour lui la guillotine qui est restée dans le vocabulaire contemporain.
Merci beaucoup Antoine Boulan de nous avoir emmené place de la Révolution où trônait jadis la guillotine, dont il faut retenir qu'elle a été pensée pour abréger des souffrances inutiles par celui qui lui a donné son nom, Joseph Ignace Guillotin. Votre dernier livre, La Révolution française, Vérités et légendes, vient de paraître aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, pour l'indice du jour, je vais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quitté il y a peu.
C'est moi que l'on appelle le coureur de marathon.
Marcel Amon.
Exactement. C'est le marathon.
Ah, le marathon.
Le marathon. On va parler d'un marathon particulier, celui de 1904.
Mais avant d'affronter Clémentine, je vais lui laisser la parole quand même. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, vous en racontez le destin à clé d'un homme qui en avait plein des clés. François Gamin, le serrurier, qui était l'instructeur de Louis XVI avant de le trahir.
Absolument, il était son instructeur. Son père était déjà serrurier des bâtiments du roi et lui avait enseigné son métier. Il avait vraiment passé son enfance dans les clés. Et comme le roi Louis XVI se passionne justement pour la mécanique, l'horlogerie et la serrurerie, eh bien, sous la direction de François Gamin, il va progresser dans ses arts. Il fait installer un atelier dans les combles du château de Versailles et il y travaille des heures et des heures entières. Vraiment, il aurait fait ça, cet homme-là, s'il n'avait pas été fils de roué. Hein. Alors, il fabrique des coffrets, des serrures, des clés. Et Gamin en a témoigné, d'ailleurs. Le roi aimait avec passion la serrurerie et se cachait de la reine et de la cour pour forger avec moi. Pour porter son enclume et la mienne à l'insu de tout le monde, il nous fallait user de 1000 stratagèmes dont l'histoire ne finirait pas. Le roi forgeait des serrures ordinaires, mais aussi des serrures de luxe en cuivre ciselé et doré, et aussi serrures à secret. Cette passion de Louis XVI et sa relation avec son serrurier sont d'ailleurs assez mal vues à la cour. Hein. L'intendant du roi Thierry de Ville-d'Avray en aurait fait la remarque au roi en lui disant « Sire, quand les rois s'occupent des ouvrages du peuple, le peuple s'empare des fonctions des rois ». Est-ce qu'il a vraiment dit ça à cette époque-là, hein?
En tout cas, c'est bien trouvé.
Oui, c'est bien trouvé.
Sinon è vero ben trovato.
En tout cas, en mai 1791, alors qu'il se trouve quasiment prisonnier aux Tuileries et qu'il s'apprête à s'enfuir à Varennes, Louis XVI demande à François Gamin de fabriquer une armoire de fer pour cacher des papiers confidentiels. Et donc, dans l'épaisseur d'un mur près de la chambre à coucher du roi, Gamin aménage un espace fermé par une porte en tôle de fer recouvert d'une couche de peinture imitant la pierre. L'ouverture de la serrure est dissimulée dans les rayures de la pierre. Si on ne connaît pas l'emplacement de cette armoire, il est impossible d'en trouver la cachette. Louis XVI, très confiant, y dépose des documents importants et confidentiels. Ses tractations secrètes avec les cours européennes, sa correspondance avec Mirabeau et Lafayette. Mais entre-temps, malheureusement, Gamin a épousé les idées révolutionnaires. Il devient membre du Conseil général de la Commune de Versailles en janvier 92. En l'apprenant d'ailleurs, Marie-Antoinette conjure son mari de retirer de l'armoire les pièces les plus compromettantes. Il faut se méfier, maintenant Gamin n'est plus de notre côté. Et c'est ce que va faire d'ailleurs Louis XVI. Il va vider, il va enlever un certain nombre de pièces compromettantes de l'armoire et les confie à Madame Campan. Heureusement, enfin de toute façon, son sort n'aurait probablement pas été différent. Et le 18 novembre 1792, Gamin, soit par scrupule, soit par crainte pour sa propre vie, évidemment, ça on peut pas trop lui en vouloir, soit peut-être alors plus grave, dans l'espérance d'une récompense, dévoile l'existence de l'armoire de fer de Louis XVI. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Roland, se rend aux Tuileries. Il récupère tous les papiers qui vont former le tome 9 des pièces du procès de Louis XVI. Mais comme tout le monde, dans cette époque, Gamin lui-même finit par avoir peur. Avec la loi des suspects, en septembre 93, il craint d'être convoqué devant le tribunal révolutionnaire. Louis XVI, à ce moment-là, a déjà été décapité. Gamin n'a plus de travail, il est tombé dans la misère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il adresse une pétition à la Convention nationale pour lui demander des secours. Dans ce document, il affirme que Louis XVI a voulu l'empoisonner. Une fois qu'il avait terminé le travail sur l'armoire de fer, Louis XVI lui aurait donné un verre de vin en l'encourageant à le boire. Il dit voilà, il faisait très chaud et le roi m'a dit buvez, buvez. Et puis tout d'un coup, Gamin est pris de coliques violentes, il vomit. Et puis, il prend un élixir. On ne sait pas d'où sort l'élixir, mais en tout cas, le voilà tiré d'affaire. Par la suite, il a été malade pendant plus d'un an et il serait probablement malade à vie. Donc il réclame une pension parce que finalement il a quand même risqué sa vie pour la révolution. Le roi a failli l'empoisonner, on peut bien lui donner quelques sous. Eh bien oui, figurez-vous, le 17 mai 1794, la Convention adopte le décret suivant. François Gamin, empoisonné par Louis Capet le 22 mai 1792, jouira d'une pension annuelle et viagère de la somme de 1200 livres à compter du jour de l'empoisonnement. Bon, de toute façon, il ne profitera guère de cette pension car il meurt à Versailles le 8 mai 1795. Ben oui, c'est une triste histoire, hein, comment sortir par le haut de cette histoire de serrurier qui non seulement a trahi le roi, mais ensuite l'a accusé d'avoir empoisonné alors qu'il était déjà mort. Ben, peut-être simplement en invoquant le vieil adage, bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est ce qui se passa pour Gamin, le serrurier qui trahit le roi.
Une triste histoire. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission où l'on s'amuse, on pleure, on rit, enfin toutes les émotions quoi.
On s'amuse de mes questions, on pleure de vos réponses. Et on rit, car c'est la politesse du désespoir.
Oh, faut pas exagérer non plus.
Voici en tout cas un moment riche en émotions fortes, c'est le quiz Born to be Alive. Alors jouons! Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler du marathon. Et là, je vais vous parler du marathon des Jeux Olympiques de 1904, qui restera dans l'histoire comme étant celui ayant enregistré la pire performance de toute l'histoire de l'épreuve, 3h28, 53 secondes. Le record actuel au JO est de 2h et 6 minutes. Le vainqueur l'a été, vainqueur, grâce à la disqualification du premier. Ce dernier avait pourtant pris de la mort au rat comme produit dopant.
Non, arrêtez.
Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il avait pris de la mort au rat comme produit dopant?
Mais il l'avait pris volontairement. Est-ce qu'il avait pris de la mort au rat pour se doper?
Ah bah oui.
Qu'est-ce que c'est la mort au rat? C'est pas de la strychnine, non?
Oui,
c'est... Ah non, c'est de la... Bah si, c'est de l'arsenic.
Mais il l'a pas pris par, il l'a pas pris volontairement.
Bah, c'est ce qu'il a l'air de sous-entendre quand même. Il a été disqualifié parce qu'il avait pris de la mort aura.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le vainqueur l'a été grâce à la disqualification du premier.
Oui.
Et Et ce dernier avait pourtant pris de la mort aura. C'est-à-dire que le vainqueur a pris de la mort aura en produit dopant. Oui. Et c'est le premier qui a été éliminé. Voilà, c'est ce que je vous dis.
C'est ce que j'avais compris. Oui, bien sûr.
Donc c'est celui qui a pris de la mort aura qui a été éliminé.
Non, celui qui a pris de la mort aura a finalement gagné la course.
Ah d'accord, c'est pas ce que j'avais compris.
Alors que c'était un produit dopant.
Mais peut-être qu'à l'époque, la mort aura, c'était un produit dopant et...
Bah, peut-être on pensait qu'en le prenant en toute petite quantité, ça... Mais de toute façon, il s'en est tiré puisqu'il s'en est,
il a gagné.
C'est mon affirmation, je dis pas que c'est vrai.
Comment la mort aura? En quoi ça serait dopant? Il y a de la... C'est de l'arsenic, la mort aura.
Il a gagné.
Il a gagné?
Ah, il a gagné.
Ah, Clémentine
après
n'est pas
avoir
d'accord.
mangé de la mort aura. Ah non, mais c'est sa question.
C'est sa question. Ouais. On va vérifier s'il a encore une fois un flair infaillible.
Non.
Vous avez gagné!
Et voilà. Alors,
racontez-nous l'histoire parce qu'elle
elle est incroyable. Elle est incroyable. Le premier à passer la ligne, c'est Lors. Mais il y a eu une supercherie car il avait fait une partie du trajet en voiture.
Non, arrêtez.
Quant au second, c'est Thomas Hick, j'imagine. Il s'est effondré juste après être arrivé. Il faut dire qu'il avait été réhydraté au cognac pendant la course. Et il a reçu aussi par deux fois 1 mg de sulfate de strychnine, autrement dit de la mort aura. Le produit a été inscrit ensuite dans les produits dopants.
Voilà.
Donc la strychnine...
À l'époque, c'est marrant, donc, il est passé entre les gouttes.
La mort aura, c'était de l'arsenic pour moi. C'est de la strychnine.
Sulfate de strychnine.
Et donc, à très très faible dose, c'est censé être un produit dopant.
En tout cas, ça a été classé ensuite comme produit dopant, mais là, il est passé entre les gouttes.
Eh bien, c'est du joli. Hein.
En tout cas, c'est une bonne réponse.
Incitation à la débauche, ce genre de question.
Non, pas du tout.
Oui, c'est ça.
Grâce à ce produit dopant, il a fait 3h28. Je vous rappelle que le record actuel est de 2h6.
C'est vrai.
Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller plus vite?
Ah ben voilà. En fait,
en 2023.
La voiture.
Une mobilette, ça passe. Une question pour vous, Clémentine. Jean de Médicis deviendra en 1513 Léon X. Le pape Léon X. Il invente les indulgences. Moyennant finance,
oui, bien sûr.
Il pardonne les péchés. Avec l'argent récolté, il paye les travaux de la basilique Saint-Pierre. Mm-hmm. En 1555, il écrit... un livre sur la confiture. Vrai ou faux?
Non, c'est Nostradamus qui a écrit un traité sur les confitures. Est-ce que vous ne croyez pas que le pape, là, il a autre chose à faire que d'écrire un bouquin sur les confitures?
Il peut avoir des hobbies. Hein?
Non. Je trouverais ça extrêmement choquant que le pape se soit soucié d'écrire un traité sur les confitures alors qu'il avait charge d'âme de toute la chrétienté occidentale.
Vous avez gagné.
Bravo.
Oui, parce que d'abord, en 1555, Léon X était déjà mort depuis 34 ans.
Ah oui.
Donc c'était un peu compliqué. Et pour le reste, vous aviez raison, c'est Nostradamus qui l'a fait avec un livre appelé « Traité des fardements et des confitures ». Vous êtes à égalité. À vous, Stéphane. Le premier génome humain a été séquencé de 1990 à 2003 et ça a coûté 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut le faire en un week-end, moyennant 1000 euros. Au début de l'aventure, on a donc choisi avec précaution les personnes que l'on a séquencées. Des scientifiques, mais aussi des autistes à l'intelligence étonnante, ainsi que des personnes à fort QI. On a aussi séquencé, assez rapidement, Hugh Hefner, le patron de Playboy, pour étudier sa légendaire vigueur sexuelle et aussi, parce qu'il a payé. Hein. Vrai ou faux?
Je crois pas.
Oui.
En même temps, au moment où c'est arrivé, il avait déjà plus beaucoup de vigueur sexuelle.
Bon, écoutez, c'était en 80, c'est il y a plus de 40 ans. Il avait quoi? Il est mort il y a peu de temps, non?
Oui.
Il avait 50 ans. Ben alors...
Non. Le premier génome, il a été séquencé de 1990 à 2003.
Oui, j'ai déjà vu. Non, je dirais non.
Ok, on vérifie.
Vous avez encore gagné.
J'y croyais pas du tout.
Ouais. Non, mais par contre, on l'a fait avec Ozzy Osbourne. Considéré comme dans le milieu du rock, comme le père du punk, les chercheurs ont tenté de comprendre comment le rocker pouvait être encore en vie malgré tout l'alcool et toute la drogue consommée.
Ah oui, il consommait de la strychnine aussi.
Eh ben, vous savez quoi? Il a été avéré que Ozzy a une mutation génétique qui le laisse insensible à la consommation de l'alcool dans la durée.
Ah, pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ah, oui.
Parce que moi, un demi-verre, déjà, je suis bourré. Il y a des gens plus résistants que d'autres. Hein.
Ah ouais. Oui.
Hein, Clémentine. À vous maintenant. Je ne sais pas qui de vous deux va remporter ce quiz, mais la victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est Platon. Hein. Ah. On doit aussi à Platon le mot antipode. Antipode, c'est le nom d'une façon de penser où la marche est au centre. Une théorie de forte influence socratique. Vrai ou faux ?
Non, parce que la marche au centre de la réflexion philosophique, c'est les péripatéticiens, ça n'a pas de rapport avec les antipodes, et puis ça me paraît être une notion plus récente. Non, je réponds non à cette question.
Vous répondez non.
Vous avez
encore gagné !
C'est faux, même si c'est bien Platon qui est à l'origine de ce mot, antipode. Antipode, c'est le point de la Terre situé de l'autre côté exact de la planète. Sur la surface d'une sphère, deux points antipodaux sont donc diamétralement opposés. Fun fact, 4% de la surface terrestre seulement possède deux points antipodaux émergés. Sinon, c'est de l'eau.
D'accord. Ah oui, c'est fort intéressant.
Voilà. Une question pour vous départager à présent. Ça va vous plaire. Ça, c'est le genre de question dont raffole mon ami Clémentine. Let's potato chip. Voilà une marque de chips qu'on connaît très peu ici en France. Et pourtant, dans l'histoire des États-Unis, elle a une place essentielle. Mais pourquoi ?
Ah oui.
Plusieurs propositions. C'est une marque de chips dont Bill Clinton a vanté les mérites et c'est la première fois qu'un président le faisait. C'est la seule marque de chips acceptée par les Mormons. C'est une marque de chips qui n'existe que dans les films. Pourquoi vous riez, Stéphane ?
Parce que je pensais à Monica Lewinsky.
Moi j'ai dit deux. Hein. Voilà, j'imagine bien
les Mormons.
Les Mormons veulent bien de ces chips.
Alors il vous reste Bill Clinton ou la marque de chips qui n'existe que dans les films.
Que dans les films.
Ah, ouais, ah c'est chouette ça aussi.
Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette et c'est d'autant plus chouette que c'est une bonne réponse pour Stéphane. C'est une marque qui n'existe pas. Enfin si, que dans les films. On s'en sert dans les films et dans les séries au cinéma pour ne pas avoir de problèmes juridiques. Ça évite de tout souci de copyright. On la voit beaucoup, par exemple, dans la série Orange is the New Black.
Ah oui, c'est marrant, ça. Comme ça, on peut les montrer passant leur temps à manger des chips, mais sans avoir en plus de
problème.
Ouais. Ah, excellente idée. Bon, bah écoutez.
Et excellente victoire de bravo. Stéphane, bravo.
Et historiquement, votre continue avec ton personnage du jour qui ont été dépassés par leur invention.
Europe 1.
Historiquement votre.
Le récit. Stéphane Bern.
Savait-il vraiment que son travail allait engendrer ? Avait-il songé à tous ses funestes effets ? Il était scientifique, l'un des plus grands physiciens de son temps, et s'est mis au service des nécessités de l'histoire et de son pays. Père d'un instrument de mort dans lequel il voyait aussi d'autres applications, il fut un peu dépassé par son invention. Je vous raconte maintenant Robert Oppenheimer. Nous sommes le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. L'aube ne s'est pas encore levée quand à 5h29 minutes et 45 secondes, une étrange lumière vient plonger en un instant le paysage dans une clarté plus brillante que celle du soleil du midi. Dans un bâtiment sur une hauteur qui domine la plaine aride, Robert Oppenheimer n'est pas surpris de voir le jour se lever en pleine nuit. Il s'y attendait même. Les yeux protégés derrière des lunettes de soudeur, il peut admirer une immense boule blanche qui s'élève dans les airs en changeant de couleur, passant de l'orange au pourpre, puis à un très beau violet qui finit par virer au bleu argenté. « Ça a marché », murmure-t-il. En effet, ça a marché. Comme en atteste l'onde de choc qui parcourt en quelques dizaines de secondes les 30 kilomètres séparant les scientifiques et militaires du lieu de l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire. Si certains rient nerveusement, d'autres pleurent discrètement et beaucoup restent silencieux, conscients que le monde est entré dans une nouvelle ère. Mais tous voient aussi, en cet instant, l'achèvement d'un colossal travail. Car voilà presque 3 ans qu'une brochette de prix Nobel, passé ou à venir, est rassemblée dans le complexe secret nommé Los Alamos, encadré par l'armée et sous la direction scientifique de Robert Oppenheimer, l'un des plus grands physiciens de l'époque. Nom de code de l'opération Manhattan Project. Le but, parvenir à maîtriser la fission nucléaire et sa potentielle puissance de feu. C'est désormais réussi. Au même moment, le président américain Harry Truman est à Potsdam, en pleine conférence avec Staline et Churchill pour envisager l'après-guerre. Voilà déjà 2 mois que l'Allemagne nazie a capitulé. Mais le Japon s'entête. Et les tempêtes de feu que les Américains font pleuvoir sur le pays n'y changent rien, pour l'instant en tout cas. Au lendemain de l'essai nucléaire, 70 scientifiques signent une pétition pour que les autorités n'utilisent pas cette nouvelle arme contre l'ennemi. Rendre plutôt public l'essai réussi, la force de dissuasion devrait suffire. Nul besoin de répandre la mort et la dévastation. Oppenheimer, lui, ne signe pas cette pétition. Il pense sincèrement que le combat traditionnel ne mènera qu'à plus de morts encore. Il siège donc naturellement au comité scientifique qui établit une liste de cibles potentielles sur l'archipel japonais. Les villes de Hiroshima et Nagasaki en font partie et leurs habitants ne vont pas tarder à connaître eux aussi cette étrange lumière. Au début du mois d'août 1945, c'est chose faite. 2 bombes pour environ 200 000 morts directs, peut-être plus. Le Japon finit par capituler, la guerre est terminée et l'âge atomique, lui, a commencé. On fait la fête à Los Alamos, mais Robert Oppenheimer n'a pas vraiment le cœur aux célébrations. Il demande rapidement à être relevé de ses fonctions, repart à l'université de Berkeley, puis en 1947 à la direction de l'Institute for Advanced Studies, l'un des meilleurs laboratoires scientifiques américains. Les recherches sur le nucléaire se poursuivent pendant que le monde n'a d'autre choix que de tenter de les encadrer. Mais à l'ONU, nouvellement créée, États-Unis et URSS ne s'entendent pas pour mettre sur pied un organisme international aux grandes dames d'Oppenheimer qui préférerait voir tous les pays s'associer dans la régulation de l'énergie atomique. Pour tenter d'influer dans ce sens et tout en auréolé de sa position de père de la bombe nucléaire, Oppenheimer dirige à partir de 1947 le comité consultatif qui conseille la commission de l'énergie atomique américaine. Il plaide pour une recherche ouverte, un partage des informations et une réorientation sur les applications civiles. Mais en 1949, alors que la guerre froide s'installe, l'URSS est en passe de finaliser sa propre bombe nucléaire. Le président Truman décide donc de relancer les recherches sur une super bombe à hydrogène pour une puissance décuplée. Oppenheimer s'oppose à ce qu'il nomme une arme de génocide. Mais malgré son autorité scientifique, les recherches continuent jusqu'à ce qu'en 1952, le premier essai de la bombe H dans le Pacifique atteste d'une puissance de feu 700 fois supérieure à celle d'Hiroshima. Oppenheimer est certes impressionné par l'avancée scientifique, mais aussi terrifié par cette mortifère course aux armements. À ses yeux, la bombe atomique classique suffit et il ne cesse de s'opposer aux militaires. Et lorsque le nouveau président Eisenhower décide de faire le ménage dans son administration sur fond de paranoïa anticommuniste, Oppenheimer va en faire les frais. Avant la guerre, pendant qu'il œuvrait à la recherche sur l'atome et en astrophysique, Oppenheimer avait régulièrement fait travailler des sympathisants socialistes. Il s'était lui-même engagé en faveur des républicains durant la guerre civile espagnole et n'avait pas caché ses accointances. Des gauchistes notoires furent choisis lorsqu'il avait embauché les meilleurs scientifiques pour le Manhattan Project. Autant de signes louches aux yeux des autorités. Alors, quand une lettre déboule sur le bureau du directeur du FBI en 1953, accusant Oppenheimer de n'être rien de moins qu'un espion à la solde des soviétiques, beaucoup veulent y croire. L'habilitation d'Oppenheimer arrive justement à son terme. Une belle occasion pour transformer une commission interne en véritable tribunal. Au printemps 1954, pendant 4 semaines, on ressort chaque petite phrase suspecte, enregistrée pendant 10 ans d'écoute téléphonique. Une foule de témoins est convoquée. Beaucoup attestent de sa loyauté et de sa droiture, quand d'autres vilipendent ses réticences sur la bombe H et son opposition au pouvoir de l'armée, synonyme pour certains d'antipatriotisme. Oppenheimer se défend mal, s'excuse même de ses errements passés. Et s'il est finalement déclaré loyal à son pays, on le juge facilement influençable. Il est donc interdit de tout poste dans l'administration. La communauté scientifique s'insurge, mais cela n'y change rien. Oppenheimer est profondément abattu. Il demeurera loin de toute affaire officielle sur l'énergie nucléaire, tout en continuant à faire vivre l'émulation scientifique à l'Institute for Advanced Studies. Dans de nombreuses conférences, il se lamente de l'emprise du politique sur la science et s'inquiète de la menace des armes atomiques. Plusieurs fois proposé pour le prix Nobel de physique, Oppenheimer ne l'obtient jamais, mais se voit décerner en 1963 le prix Enrico Fermi éminente récompense scientifique américaine qui fait œuvre de réhabilitation. S'il n'a jamais regretté publiquement son rôle dans la mise au point de la bombe atomique, il reconnaît que moins de tueries auraient été préférables. Et lorsqu'en 1962, 5 ans avant sa mort, on lui demande ce qu'il pense d'une situation où l'homme a percé un secret qui le dépasse, avec le risque de courir à sa propre perte, il répond
« Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. »
Gardons espoir alors.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de J. Robert Oppenheimer, nous avons le plaisir d'accueillir une écrivaine qui lui consacre son dernier livre. Bonjour Virginie Aulagnier.
Bonjour.
Virginie Aulagnier, vous avez publié « Ils ont tué Robert Oppenheimer », une biographie romancée du père de la bombe nucléaire. Depuis les années 80, nombreux sont ceux qui, comme vous, sont emparés de son histoire pour la raconter. Le mois prochain, on pourra d'ailleurs voir au cinéma le film « Oppenheimer » réalisé par l'Américain Christopher Nolan. Qu'est-ce qui fascine, d'après vous, chez cet homme ? Qu'est-ce qu'il a, selon vous, de romanesque ?
Certainement beaucoup de choses. Et je pense que chaque personne travaillant sur la vie de Robert Oppenheimer va découvrir ses propres mystères. C'est une personne sur laquelle on peut projeter nos propres désirs, nos propres intuitions, nos propres affirmations. Alors évidemment, c'est ce contre quoi moi j'ai lutté le plus possible. C'était de m'en tenir à ce qu'il a dit lui-même, ce qu'il a écrit, et essayer de construire une histoire autour de cela.
Mais ce qui vous a entraîné dans cette aventure, ça a commencé à l'adolescence. Je crois que vous avez croisé, votre regard en tout cas a croisé une photographie de Robert Oppenheimer, racontez-nous.
Oui, c'est tout à fait ridicule. Je dois avoir 13-14 ans et je découvre en classe de physique-chimie toute une frise de scientifiques autour de moi et sur ces hommes, parce qu'évidemment il n'y avait que des hommes à part Madame Curie, il y a un seul qui me regarde avec cette tendresse généreuse qui me dit « Oui, je sais, ça va être compliqué peut-être, mais vas-y, accroche-toi. » Et tous les autres sont très sûrs d'eux et lui, pas du tout. Et quand je rentre chez mes parents, évidemment, et que je parle à maman de Robert Oppenheimer, elle m'a tout de suite demandé son âge, et je dis que je ne savais pas qu'il était en classe de physique-chimie, et qu'il était évidemment sur le mur de la classe de physique-chimie. Et elle m'a dit « Alors, c'est le père de la bombe atomique. » Et là, il y a eu une dissonance cognitive. C'est-à-dire que ce visage-là, ces yeux-là, ne pouvaient pas être les porteurs de cette arme de destruction massive.
Alors justement, il semble assez insaisissable, ce Robert Oppenheimer. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à savoir ce qu'il pensait vraiment de cette arme destructrice qu'il avait inventée ?
Alors, je pense qu'il a écrit beaucoup de choses et qu'il a donné des conférences dans lesquelles il explique assez clairement son point de vue. C'est-à-dire que c'est une arme qui a été construite, il faut envisager ça, après 10 ans de nazisme, 20 ans de fascisme, pas tout à fait mais presque, que c'est une arme qui est en train d'être construite au même moment en Allemagne. Une fois qu'elle a été construite en Allemagne, pense-t-il, Hitler dominera le monde. Donc on est dans une vision qui est pas du tout celle qu'on peut avoir maintenant. Pour eux, c'est très pressant. Et ils savent la nécessité de cette bombe pour peut-être lutter contre une bombe hitlérienne. Voilà.
Aux yeux de l'histoire, Oppenheimer est le père de la bombe nucléaire. Est-ce qu'il a endossé cette responsabilité ? Il a dit un jour qu'il était devenu, je cite, « la mort est le destructeur des mondes ».
Oui. De toute façon, disons que normalement, dans un laboratoire de science, le patron du laboratoire est le responsable du papier qui va être publié. Donc, il est responsable de la bombe atomique. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer cette arme. Il n'est pas responsable lui-même, personnellement, de la fabrication, évidemment, de l'engin. Par contre, et je crois, très honnêtement, pour l'avoir lu chez d'autres, là, ce sont d'autres personnes qui se prononcent sur Robert Oppenheimer, qu'il aurait endossé cette malédiction, finalement, en étant l'homme le plus célèbre pour la mort, pour pouvoir peut-être soulager les sciences, peut-être soulager les scientifiques qui étaient là-bas, et puis devenir l'homme qui sera jugé.
Jean-Luc. Mais il n'a jamais publiquement regretté l'usage de la bombe sur la ville d'Hiroshima et Nagasaki ?
Non, jamais. Alors peut-être parce qu'il est mort trop tôt, il est mort en 1967, et lui était absolument convaincu que sans cette arme-là, la guerre aurait été prolongée de beaucoup, qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts. Mais il va passer ensuite sa vie à lutter contre cette bombe. C'est-à-dire que c'est un homme qui a observé en 1922-23 que les gaz qui avaient été inventés pendant la Première Guerre mondiale ont été interdits. Donc, il se dit, peut-être, on va créer une arme de destruction massive, quelque chose d'inenvisageable pour l'esprit commun, et ensuite, on va la faire interdire, comme les gaz ont été eux-mêmes interdits. Donc, c'est une arme qui ne servira peut-être qu'une fois ou deux fois, et après, ça sera fini.
Pendant la guerre froide, Oppenheimer s'oppose aux recherches sur la bombe thermonucléaire, la fameuse bombe H, bien plus puissante que la bombe A. Ça lui vaut d'être discrédité par le gouvernement américain. Est-ce que, selon vous, il a été victime d'une grande injustice ?
Alors, je pense qu'il a mis en avant le fait que cette bombe H était disproportionnée pour la guerre. Elle est beaucoup trop grosse. D'ailleurs, on ne peut pas s'en servir pendant la guerre. C'est ce qu'on appelle actuellement des bombes stratégiques. C'est-à-dire que ce sont des bombes qui sont tellement énormes qu'elles ne peuvent pas servir. Et c'est ce que dit Robert Oppenheimer pour essayer justement de s'opposer à cette bombe. Il va rationaliser ses arguments en disant qu'elle coûte trop cher, qu'elle va mobiliser trop de scientifiques. Tout ça pour la ralentir. Ralentir sa création. Alors, elle va être créée, évidemment. Mais ça, c'est effectivement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il va être, ça va lui être reproché lors de son procès.
Virginie Olani, votre livre est paru en janvier 2022, un mois avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Et puis avec justement ce qu'on a suivi, c'est-à-dire les premières menaces nucléaires, Oppenheimer craignait la folie destructrice des dirigeants, la possibilité d'un conflit nucléaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est opposé à la bombe H. C'est pour éviter ce qu'on est en train de vivre.
Alors c'était, je vous dis, c'était vraiment son ambition en 1946, devant l'ONU, de faire interdire la bombe, c'est-à-dire de donner le nucléaire à l'ONU. Et que les États n'aient plus à s'en servir.
Et ça, les États n'en ont pas voulu, comme je l'ai raconté.
Disons que ça a été assez rapidement fait, plié même, et qu'ensuite, il a passé toute sa vie à parler, à dénoncer, par exemple, le fait en 1953, donc on est juste avant son procès, parce que je considère que c'est un procès, que les États-Unis et l'URSS sont comme deux scorpions dans une bouteille, prêts à s'annihiler l'un l'autre au prix de la vie de toute l'humanité, finalement. Donc, il a passé vraiment son temps à dénoncer cette situation-là, à faire en sorte de prévenir les Américains. Ils ont sorti, les scientifiques atomistes ont sorti un bulletin qui existe encore maintenant, qui a lancé la Doom's Clock, l'horloge de la fin du monde. Voilà, donc ils ont vraiment travaillé à faire connaître cette menace épouvantable qui, pour Robert Oppenheimer, c'est la menace donc de la mort nucléaire. Donc, c'est vraiment été son chemin de lutter contre cela à travers les mots. À travers ces mots, il a écrit beaucoup de choses merveilleuses.
Merci beaucoup, Virginie Olani, de nous avoir raconté Robert Oppenheimer, le père de la bombe nucléaire. Votre livre, Ils ont tué Oppenheimer, est disponible aux éditions Anne Carrière et paraîtra très prochainement en poche chez Folio. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassé-Lopez et Yvan Jacob ont réuni des personnages qui ont été dépassés par leur invention. Après Joseph Ignace Guillotin et J. Robert Oppenheimer, vous nous racontez Jean-Luc Evan Zuckerman.
Internet a tellement changé depuis ses débuts à l'aube des années 90. Et si globalement maintenant nos difficultés se résument à nous souvenir de tous nos mots de passe et à choisir un avatar pour nos futures vacances dans le métaverse, n'oubliez pas que nous avons dû affronter un fléau aussi perfide et éprouvant qu'une conversation avec un acheteur sur Vinted, des publicités pop-up. Oui, avant l'arrivée des bloqueurs de fenêtres publicitaires, on naviguait sur le web tranquillement, jusqu'à ce que surgisse de nulle part un carré bien relou, qui prend tout l'écran et qui vante les mérites de rencontres coquines avec des bulgares, ou qui nous propose 30% sur l'achat d'une carafe filtrante. Le seul moyen de s'en débarrasser, trouver le petit X, vicieusement caché dans un coin, souvent le coin supérieur droit. Ça prend déjà 30 secondes, hein ? Une minute, si on a plus de 45 ans et un début de cataracte. On clique sur le X et la pub se réaffiche. Pourquoi ? Parce que c'est un pop-up, hein ? Et à cause de qui tout ça ? De Evan Zuckerman, l'inventeur de cet herpès numérique et accessoirement légende d'Internet. Né en janvier 1973, Zuckerman ressemble à François Hollande avec les cheveux longs de David Guetta et le cerveau de McClesgy. Voilà, je vous laisse associer ces trois références. Il a fait partie des premiers membres de Tripod.com, une des premières plateformes d'hébergement de sites internet dans les années 90.
Ah oui,
ça rappelle des souvenirs.
Ça, oui.
Tripod se concentre sur du contenu destiné aux étudiants. Comment faire des économies, où sortir le samedi, et autres conseils pour pécho qui intéressent les jeunes en surproduction de sébum et de DHEA. Tripod cartonne car il permet à ses utilisateurs de créer leur propre page internet. L'ancêtre du blog, l'ancêtre de Facebook, les portes de l'enfer. Plusieurs business plans sont envisagés pour maintenir l'activité et surtout gagner de l'argent. Et c'est la publicité qui s'avère être la direction la plus rentable. Et ce qui a motivé Tripod à proposer une solution rapidement, c'est notamment lorsque l'un de leurs clients, un fabricant de voitures, a réalisé qu'il avait acheté une bannière de pub sans savoir qu'elle allait être affichée sur un site web vantant les plaisirs du sexe anal. On peut comprendre leur désarroi, car il ne s'agit effectivement pas de la même marche arrière. Evan a alors 23 ans et est donc chargé de créer une nouvelle manière d'afficher les publicités sur les sites. Notre petit geek gratte ses lignes de code et trouve la bonne formule. Une fenêtre publicitaire qui apparaît par-dessus le contenu d'une page web. Parce que c'est quand même mieux que ta pub apparaisse dans une autre fenêtre que celle où tu regardes Kiki Bukake et son incroyable cream pie. Et voilà, la pop-up est née. Et le cauchemar pour nous futurs utilisateurs commence. Mais attendez. Avant d'aller le courser avec une fourche ou de lui envoyer des DM d'insultes, sachez qu'il n'avait pas prévu que sa création devienne une telle plaie. Et il s'en est même excusé, je cite... Je n'avais pas vraiment l'intention de casser Internet. J'avais pas l'intention de pourrir la vie des gens avec cette chose horrible. Je suis vraiment désolé. Parce que lui, son idée à la base, elle était toute simple. Associer une pub à la page d'un utilisateur sans la mettre directement sur ladite page. Simple, non ? Mais les diaboliques annonceurs se sont vite rendus compte du pouvoir de ces haricots sauteurs publicitaires. Et s'en sont servis pour nous forcer à les regarder alors qu'on n'avait rien demandé. Et le pire, c'est que c'est aggravé. Ces fenêtres intempestives se sont peu à peu transformées en super spam et autres logiciels malveillants. Ça a pris quelques années, mais on est arrivé à un point où fermer un pop-up provoquait immédiatement l'ouverture de quatre autres. Stéphane pourra témoigner. C'est comme ça qu'il s'est fait piquer toutes ses données sur le site de La Redoute. On sait désormais qu'il aime les plaids et les grosses tondeuses. Et que son mot de passe, c'est Diana sous le pont de l'Alma 97. Et justement, le plus grand regret d'Evan, ce ne sont pas uniquement les publicités pop-up. C'est qu'on ait pu créer un Internet gratuit où les entreprises gagnent de l'argent non seulement grâce à la pub, mais aussi en exploitant nos données. Notre petit codeur est alors devenu un activiste. Une voix positive pour tous les geeks de la planète. Son travail se concentre désormais notamment sur la conception et la promotion de versions plus positives des réseaux sociaux et imaginer un nouveau modèle commercial pour Internet. Evan enseigne aussi au MIT, un prestigieux pôle de recherche de l'Université du Massachusetts, et il fait souvent part de son inquiétude quant à l'acceptation générale des gens face à l'utilisation et à la diffusion de leurs données. Bande de passifs. Et voilà, on en revient au plaisir du sexe anal. C'est fou, hein ? Malheureusement, j'ai pas le temps de parler prostate. Mais je peux vous annoncer qu'il s'agira de la thématique de la prochaine recette de Laurent Mariotte à la table des bons vivants. Quoi qu'il en soit, si Evan n'avait pas inventé les fenêtres pop-up, bah, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et si vous vous demandez ce qu'elles sont devenues alors des bloqueurs de pub, sachez qu'elles survivent sur quelques sites obscurs, prêtes à bondir, vous promettant que si vous leur cliquez dessus, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous ne gagnerez rien, bien entendu, si ce n'est un virus. Maintenant, la pub est plus sournoise, plus intuitive, grâce à l'algorithme qui aspire vos données. Vous savez que c'est un piège, mais vous pouvez pas vous empêcher de plonger un soir de faiblesse. Moi, si ça avait marché, à chaque fois que j'ai cliqué sur le lien « Allongez votre pénis », je pourrais descendre la tour Eiffel en rappel aujourd'hui. Et n'oublie pas que nous devons aussi faire face à d'autres calamités telles que l'acceptation de cookies à chaque visite de site, ou pire, les vérifications de sécurité CAPTCHA, hein, pour prouver qu'on est un vrai humain.
Et pas un robot. Ouais.
Exactement. Et on perd des minutes de vie précieuses à cliquer sur des roues de vélo et autres passages piétons. Sans oublier les erreurs 404 et l'impression de fouiller dans une poubelle à chaque fois qu'on lit des commentaires sur Twitter. Oui, on en viendrait presque à regretter cette promesse amoureuse bulgare. Ou les 15% sur cette horrible rocking chair maison du monde. Vous pouvez me repoper, s'il vous plaît.
Ah là là, vous avez exprimé évidemment tout ce qu'on ressent.
Ouais, oui. C'est quand même la détresse, les pop-up.
Oui, c'est horrible. Merci Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont été dépassés par leur invention pour retrouver deux journalistes qui ne se laissent jamais dépasser, même pas sur l'autoroute. David Cassé-Lopez, lui, il n'a pas le permis de conduire, donc ça sera difficile. Vous nous racontez les origines d'un jeu qu'il y avait dans les cafés à l'époque, Flipper.
Le Flipper, tout à fait.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle mode avec vous, Ivan Jacob. Et on remonte en 1966, lorsque sort sur les écrans, qui êtes-vous, Polly Magou ?
Oui, Stéphane. Et Swinging 60s oblige, on enfile une mini-jupe en vinyle, vous aussi les garçons, et un maquillage à la Twiggy, la mannequin star de la décennie. On est en plein Space Age de la mode, marqué par des créateurs comme André Courrèges et Pierre Cardin, évidemment. Et je vous amène à un défilé d'incroyables robes rigides en métal. Il a lieu ce défilé dans l'Habitacle 2 à Meudon, une forme étrange à mi-chemin entre l'igloo et l'abbaye en ruine, construite en 1964 par l'architecte André Bloch.
Ah, ça c'est absolument admirable, évidemment pas commode, mais que faire. Oh, c'est étonnant. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est une beauté.
Magnifique.
Alors ce défilé, il a toute la recherche conceptuelle qui agite la mode dans les années 60, et pourtant ce n'est pas un vrai défilé. Il a été imaginé par le réalisateur William Klein pour son film « Qui êtes-vous, Polly Magou ?».
C'est donc un film dédié à la mode.
Oui, Polly Magou raconte l'histoire d'une cover girl, ces filles qui atteignent la célébrité en posant en couverture des magazines, comme Twiggy donc, mais aussi comme Jean Shrimpton ou Peggy Moffitt. L'actrice qui interprète Polly s'appelle Dorothy McDowan, elle est la mannequin fétiche du réalisateur. Oui, parce que William Klein, il a été lui-même pendant plusieurs années un photographe de mode reconnu. C'est la vraie force du film. Son réalisateur connaît très bien le monde de la mode. Il le connaît si bien même qu'il a décidé de le quitter. Il a mis un terme à sa carrière et réalisé Polly Magou dans la foulée, un film potache et satirique sur l'univers de la mode, une enquête menée par deux journalistes télé joués par Jean Rochefort et Philippe Noiret, tout jeunes tous les deux, un faux documentaire donc sur fond de contes de fées, puisque Polly vit une histoire d'amour fantasmée avec un prince, interprété par Sami Frey. Et j'en profite pour lui dire que je suis très amoureuse de lui si jamais il écoute.
Mais donc c'est une parodie qui se moque du monde de la mode en somme.
Ouais, et c'est vraiment très drôle. Tout le monde en prend pour son grade. Le créateur de mode totalement narcissique qui a plein de formules géniales. Il dit par exemple qu'il faut restructurer les structures. Le personnage fait évidemment penser à Paco Rabanne qui présente sa collection manifeste en janvier 66. Collection dans laquelle il présente des robes futuristes qu'il définit lui-même comme totalement importables. Et puis à côté de lui, il y a la rédactrice de mode toute puissante qui terrorise tout le monde et qui fait comme ça l'éloge du designer.
L'ingénieur du gêneur, le magicien des mollets, le géomètre des cuisses, l'architecte des reins, le grand metteur en scène du corps féminin, Isidore Ducasse, à recréer la femme.
Voilà, mais au-delà de la blague, Polly Magou est aussi une véritable réflexion sur le milieu de la mode.
Mais quelle question ça pose, par exemple ?
Eh bien, le film est presque une dissertation sur cette question devenue depuis récurrente. La mode est-elle un art ou bien le règne du futile et de la vanité ? Un sociologue qui est interviewé dans le film par les journalistes raconte une autre version de la légende de Cendrillon. Dans cette variante, c'est la sœur aînée qui attrape la pantoufle. Son pied est trop grand, tant pis, sa mère lui dit de se couper l'orteil, ce qu'elle fait pour pouvoir le rentrer dans le soulier. Et le sociologue conclut, fétichisme, mutilation, souffrance, c'est toute l'histoire de la mode. L'enfant comprend la valeur économique des petits pieds et des beaux vêtements. Grâce à eux, Cendrillon trouve l'amour et fait un beau mariage. Alors, il n'y a pas beaucoup de films qui parlent avec autant d'humour et d'intelligence de la mode. Il est aussi esthétiquement très beau parce que William Klein avait beaucoup de talent. C'est pour ça que le film est devenu culte. Klein est mort en septembre dernier, mais son film ne s'est pas du tout démodé. C'est l'un des préférés de Jean-Paul Gaultier, qui en a même diffusé un extrait lors de son défilé d'adieu en janvier 2020 au Théâtre du Châtelet. Et puis en janvier dernier, c'est une autre créatrice de mode qui a rendu hommage à son travail. Virginie Viard, la directrice artistique de la Maison Chanel, qui a fait des clins d'œil appuyés à Polly Magou dans son dernier défilé. Ça fait beaucoup de bonnes raisons de le voir ou de le revoir.
Et on peut le voir sur des plateformes ?
Il est sur Arte en ce moment.
D'accord.
Ah oui, on peut le revoir sur arte.tv.
Oui, super. Il est disponible en ce moment.
Bah, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mes aïeux, quelle époque. Merci, Ivan.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout avec vous maintenant, David Castel-Lopez, puisque sans perdre la boule, vous nous racontez les origines du flipper.
Oui. Il y a, à côté de Paris, au milieu du bois de Boulogne, un petit château tout mignon qui s'appelle le château de Bagatelle. En 1777, ce château, il existait déjà, et un soir, le comte d'Artois, qui était un type très important, a fait une fête dans ce château en présence du roi Louis XVI.
Qui était son frère.
Exactement. Et à cette occasion-là, il a présenté un nouveau... Oui, c'est important de le dire. Et à cette occasion-là, il a présenté un nouveau jeu que quelques aristocrates connaissaient déjà. C'était une sorte de jeu de boules à mi-chemin du billard et du bowling qui se présentait sous la forme d'une table inclinée sur laquelle on lançait une balle, balle qui, sous l'effet de la gravité, cherchait à redescendre, mais dans sa descente, elle pouvait être stoppée par des rangées de clous plantés en arc de cercle, et à chacune de ces rangées de clous correspondait un nombre de points. Si la balle se stoppait à tel endroit, on comptait 100 points, à tel autre endroit 10 points, etc. Ce jeu, on l'a assez vite appelé le jeu de Bagatelle. Et vous voyez déjà, d'après ma description, qu'on est dans une sorte de proto-flipper. Ce proto-flipper, il a traversé l'Atlantique avec les armées françaises qui ont participé à la guerre d'indépendance américaine. Au 19e siècle, il s'est largement diffusé aux États-Unis. Et comme souvent, quand quelque chose se diffuse aux États-Unis, il est devenu mieux. En 1892, il y a un monsieur qui a eu l'idée de mettre une fente dans laquelle il fallait glisser des pièces pour pouvoir jouer. Et à partir de là, le flipper s'est diffusé dans les bars, dans les auberges américaines. En particulier pendant la Grande Dépression, au moment où tout le monde était pauvre et tout le monde était avide de divertissements bon marché. Or, le flipper, c'était pas cher. Ça coûtait l'équivalent de 20 centimes d'euros d'aujourd'hui pour 7 billes. 7 billes, pas cher, et le fun est au rendez-vous. Vers cette époque-là, le flipper s'est électrisé, puis on lui a rajouté une vitre de façon à ce que les joueurs ne puissent pas aider la balle avec leurs doigts. On a inventé les bumpers, ces petits cylindres qui repoussent la bille très fort quand elle les touche. Mais même comme ça, à cette époque-là, le flipper, c'était encore largement un jeu de hasard. Vous propulsiez la balle et vous espériez qu'elle s'arrête dans un endroit qui vous rapporte des points. Et vous le savez sans doute, l'Amérique puritaine n'aimait pas du tout les jeux de hasard qu'elle considérait comme des vices. On reprochait aux flippers en particulier de corrompre la jeunesse. Et donc, dans plein d'endroits aux États-Unis, le flipper a été interdit. Et là, les fabricants de flippers ont répondu avec l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire du flipper. Les petites spatules latérales en forme de triangle qu'on actionne pour faire remonter la balle le long de la table. Ce qui limite le côté jeu de hasard du flipper en y introduisant l'adresse et la dextérité. Ces petits triangles, on les appelle précisément des flippers et ce sont eux qui ont donné le nom à la machine. Mais en Europe, parce qu'aux États-Unis, flipper, ça se dit pas flipper. Ça se dit pinball machine. Pourquoi pinball?
Ah, ça.
Pin, c'est une épingle. Ball, c'est une balle.
Oui. Et pourquoi épingle, du coup?
Parce que il y avait des épingles qui empêchaient les boules de descendre.
Exactement. Au départ. Mais oui, vous avez suivi merveilleusement bien.
C'est les clous du début.
C'est les clous du début. Exactement.
Ils découvrent les qu'on est intelligent. Ils en étonnent. Oh,
et qu'on
c'est
l'écoute.
Incroyable. Les clous du début, les pins, et donc pinball, la balle qui va dans les petits clous. Ça n'a pas suffi à ce que le flipper soit autorisé aux États-Unis, même s'il a continué à subsister chez les gens, les particuliers, et en scred quand même à l'arrière des boutiques. Il a fallu attendre les années 70 pour que l'interdiction du flipper aux États-Unis soit levée. En 1976, les fabricants de flippers, ils ont encouragé l'audition par les pouvoirs publics du meilleur joueur de flipper du pays, qui s'appelait Roger Sharp, pour qu'il démontre que c'était un jeu d'adresse et non pas seulement un jeu de hasard. Roger, devant les auditeurs, il a dit, vous savez quoi, avec le flipper là, je vais mettre la bille là-bas, ok, là-bas, et je l'annonce à l'avance, et il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, et l'interdiction a été levée, et Roger, il est toujours vivant aujourd'hui, et il est resté connu comme l'homme qui a sauvé le flipper. Alors depuis, le flipper, il a perdu sa dominance dans le monde à cause des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est quand même plus spectaculaire, il y a plus de possibilités, ça tombe moins en panne, ça coûte moins cher, enfin c'est mieux à tous les points de vue, en tout cas pour
les
buralistes.
Oui, mais il y avait un geste, mais et puis on le bousculait pour que la balle elle aille dans le bon côté.
Attention au tilt. Exactement, le tilt qui est inventé dans les années 40 aussi, où on pour ne pas que justement tricher et pouvoir soulever le truc pour pouvoir faire ce qu'on veut avec la balle.
On voyait plein de gens les collectionnaient aussi.
Oui, mais ça reste aujourd'hui, comme beaucoup de choses vintage, il reste un marché pour le flipper, il y a encore des gens qui aiment bien ça, mais bon, on n'est plus dans les niveaux de domination que ça a été à une époque.
Très bien, mais merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec, non pas 3, mais 4 nouveaux personnages dont le testament a semé la zizanie. Le roi Louis XIV, alors que le Parlement a cassé son testament et nommé régent Philippe d'Orléans, son neveu, contre ses dernières volontés. Puis, les frères Edmond et Jules de Goncourt, dont le testament demandait la création d'une académie à leur nom. À la mort d'Edmond, les héritiers s'en sont mêlés, vous verrez. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un artiste que dis-je une idole dont le testament a causé bien des soucis.
Oh oui, l'idole Johnny Hallyday. Son testament a tellement fait parler que je vais vous en parler. Hein. J'ai 24 heures pour tout comprendre et je peux vous dire que c'est pas gagné.
Mais si, vous, il vous suffit d'avoir envie. L'envie d'avoir envie même. Allez, à demain les amis, d'ici là, passez une très bonne soirée.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.